Le retour.
OK, kid, let's do this.
Le boulevard 102.1.
C'est très confortable sur Québec actuellement. Le mercure à l'aéroport international Jean Lesage m'indique 21 degrés, mais avec le facteur humidex, c'est autour de 26 degrés. Des gros nuages dans la grande région de Québec. À certains endroits, il pleut. Certains endroits, il y a du soleil. Certains endroits, c'est les deux.
Donc, mix.
Lâchez pas, ça va être ça pour toute la soirée, mais j'ai des bonnes nouvelles pour vous autres pour ce qui est des prochains jours. Vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, c'est plein soleil, donc profitez-en les amis. Gâtez-vous.
Yes.
Salut à mes chums motocyclistes. Je vais aller vous rejoindre ce soir, 19h30 ou 19h45. Je suis sur la route pour aller vous voir. Je vais aller faire un petit tour de l'île Orléans tantôt.
Oh yeah!
T'avais pas du sport, toi?
Oui, un petit peu plus tôt.
OK.
Fait qu'après, tu pars en moto.
Après l'émission, je vais en faire du sport. Okay. Après ça, je m'en vais faire de la moto.
Beau planning.
Bonne soirée, ça.
Pour les vacances en force.
C'est mon plan. Jusqu'à temps que j'en fasse part à ma blonde ou ça se peut que ça change.
Circulation à vous, Mancini, capitale en direction est, entre le boulevard de Lormière et Pierre-Bertrand. En ce moment, c'est au rouge. Il y a quoi que ce soit d'autre? 418-971-1021. Puis, hey, je vais vous parler du port de Québec. C'est vraiment l'activité à faire cet été, l'Oasis du port de Québec, qui vous invite à vivre une expérience de baignade assez cool dans le fleuve Saint-Laurent. C'est situé au port de Québec, au bassin Louise, l'Oasis qui offre gratuitement aux gens de Québec et aux visiteurs une aire de baignade libre. Il y a des corridors de nage de dimension olympique. Allez vous pratiquer, c'est juste olympique en plus. Des espaces de détente et des installations uniques pour vous rafraîchir cet été. Puis en plus de l'Oasis, il y a la cale au port de Québec. Puis on vous invite aussi sur cette belle terrasse-là au cœur du Vieux-Québec. Il y a quoi? Des espaces de détente, vous pouvez faire du coworking sur place, prendre un verre, manger et admirer la superbe vue qu'on a sur le fleuve Saint-Laurent. C'est disponible depuis juin jusqu'à septembre. Pour plus d'infos, visitez leportdequebec.ca, portquebec.ca pour plus de détails.
Pas sûr, Pascal, je pense que tu as un message qui est rentré
dans ton ordinateur.
Ouais. C'est un courriel, mesdames et messieurs.
Le pire, c'est que quand tu
entends... important?
Quand tu entends le ting des animateurs de radio sur leur cellulaire, tu es dans ton char, puis là tu dis « j'ai pas le droit, mais c'est qui me texte? »
Si tu voulais savoir, c'est les ministres Sadjan et Guilbeault qui vont faire le point sur les feux de forêt en Alberta. C'est un communiqué de presse qui ne t'intéresse pas qui vient d'entrer.
Ben, c'est le panache descendait jusqu'en Californie.
Oui, c'est fascinant, mais c'est en train de détruire Jasper au complet. Là. C'est ça
la moitié de Jasper
aussi,
qu'on disait qui était complètement détruit.
Le président du groupe Aventure Chasse-Pêche est là. C'est notre expert chasse-pêche. Son nom, c'est Martin Bourget. Salut, Martin.
Salut, mon sportif. Comment ça va?
Ça va très bien. Hey, j'ai plein d'histoires à te raconter, mais il y en a une que j'ai vécue il y a de ça quelques jours. J'étais faire un tour au Zoo Miller.
Okay. Oui.
Puis j'ai pensé un petit peu à toi parce que toi, tu fais des expéditions, tu amènes des auditeurs d'aventure chasse-pêche, tu les amènes en safari ou encore faire des chasses sur le continent africain. Puis là, oui. Je me suis dit, Martin doit déjà avoir vu un lion pendant ses séjours en Afrique. Puis moi, ben, c'était la première fois que j'en voyais un de si proche. Tu sais, au Zoo Miller, là, les animaux sont à peu près à 5 pieds de toi. Heureusement, ils sont dans une cage. Mais quand tu veux aller voir un lion... si tu étires le bras, je pense que tu peux quasiment y flatter le museau. Tu ne devrais pas faire ça, mais tu es très près. Et là, le lion se promenait aux alentours de sa cage, là, qui est quand même assez longue. Puis il y a comme des sentiers. Tu as l'endroit principal pour observer le lion. Puis tu as comme des sentiers autour de la cage du lion. Puis, ben, ma blonde a dit, j'aimerais ça le voir marcher, j'aimerais ça le voir dans toute sa splendeur. Fait qu'à part avec un petit gars de 7-8 ans, et il embarque dans le sentier. Et une fois que le lion se ramasse à la hauteur du petit gars et de ma conjointe, le lion décide de se lâcher. Donc, il a lâché une petite piste comme ça. Mais je savais pas que les lions pissaient à l'horizontale par en arrière. Le petit gars a reçu de la piste de lion partout sur lui, sur son gilet et tout ça. Ma blonde l'a reçu sur ses cuisses. Puis, c'était comme quelque chose de nouveau que j'avais jamais entendu parler. Là. C'est-tu normal qu'un lion fasse ça?
Ben écoute, je sais pas. Il faudrait peut-être demander à un urologue plus qu'à Martin Bourget. D'après moi, tu aurais une meilleure réponse parce que j'ai jamais vu un lion c'est pisser carrément. Mais écoute, c'est quand même quelque chose qui arrive bien qu'une fois d'une vie. Là, ça...
ben, j'ai dit à ma blonde...
Elle devrait se considérer chanceuse, c'est
j'ai
ça,
dit à ma blonde, moi, je vais le raconter à la radio. Les gens sont habitués que je raconte des affaires bizarres, là. Mais toi, tu dis pas, parce qu'elle travaille en santé, ma blonde, tu dis pas au bureau, genre, « Hey, j'ai rencontré un lion en Beauce, puis il m'a pissé dessus. » Tu sais, je veux dire, il y a personne qui va te croire, mais c'est réellement arrivé.
Ben, il arrive bien des choses en Beauce. C'est entre autres ça. C'est pas là que tu restais avant, toi?
Oui, c'est ça.
Mais non, j'ai jamais vu un lion uriner comme tel. Mais écoute, c'est presque une bénédiction. Ça arrive bien qu'une fois d'une vie, ça, puis si tu perds un lion, c'est arrivé là, souviens-toi-en.
Mais c'est moi, je m'attendais, écoute, j'étais peut-être un peu épais, Pascal, CV te dirait oui. Là.
J'ai rien dit aujourd'hui.
Mais je m'attendais à ce que ce soit comme un chien, comme un chien masculin. Là,
lève la patte,
merci, bonsoir. Non. C'est horizontal par en arrière, comme si ça sortait du péteux. Là.
Comme une vache, pour ceux qui ont déjà vu ça. Mais moi, j'ai demandé à Yannick, est-ce que le jet était dru? Parce que ça peut surprendre, ça aussi, là.
Oui, bien, c'est ça. Ça dépend de la force du jet. Il faut quantifier puis il faut qualifier le jet. Mais ça arrive bien qu'une fois d'une vie. Mais je ne savais pas que ça pissait de même. Non, d'après moi, je pensais que ça avait le sifflet orienté vers l'avant. Moi,
écoute, à moins que ce soit le seul lion de la Terre qui fasse ça, là, mais je te jure que c'est arrivé.
Il est au Miller.
Sérieux, je ne sais pas si tu as déjà été au Miller Zoo, mais je pense que c'est un des plus beaux zoos qu'on a, là, du moins très près de Québec. Là. J'ai été faire un tour, tu es très près des animaux, les animaux sont bien traités. Puis je l'ai dit à Pascal, puis je sais que ça a surpris bien des auditeurs. T'sais. Moi, un lion, je trouve ça très cool, là, mais ce que je trouve encore le plus cool, c'est de voir un orignal à 5 pieds de moi, dans toute sa splendeur quand il est debout. Ben, j'aime ça qu'il y a une clôture qui nous sépare, là. Mais c'est tellement beau quand tu le vois avec son panache et tout ça. À chaque fois, ça vaut l'investissement du Zoo Miller quand je vois cet orignal-là.
C'est hyper majestueux. Puis tu sais, il y a la beauté de la place, puis il y a l'expérience que tu vis là, mais il y a toute la mission alentour du Zoo Miller aussi. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, il y a des émissions qui ont été faites là-dessus. Là. Allez voir un peu de quoi il en retourne. Là. Pourquoi ça existe, ce zoo-là, puis qu'est-ce que ces gens-là font? Ça dépasse l'émerveillement d'aller sur place puis de voir un singe se gratter derrière. Là. Il y a énormément d'histoires en arrière de tout ça. Là. Ces gens-là ont une vraie mission envers les animaux et ils le font très, très bien. Ils sont aimés dans le domaine de la chasse et de la pêche. Des gens qui vouent beaucoup d'importance à la conservation. Ces gens-là sont sur un piédestal, puis bravo pour leur mission.
On me dit que les matous dans une grange, ça fait ça aussi. Donc, comme le lion est un félin, on pourrait peut-être faire le lien.
Les matous une grange, je veux dire, un chat fait pas ça, là.
Ben moi, j'ai jamais vu. Tu sais, je suis pas très attentif là, à mes chats quand ils pissent, honnêtement. Mais si Guillaume le dit, moi, je le crois.
Okay. Sais-tu quand les glandes viennent trop pleines, ça se vide par en arrière, dans le fond, c'est pas de la pisse, c'est du jus de glande qu'elle a eu.
Hey, ça commence à m'écœurer, là.
Oh, écoute, à ce soir, je vais appeler ma blonde ma petite féline.
Elle était bénie.
Elle était bénie.
Par le roi Lion, là, quand même. Là. Écoute,
par Mufasa.
Ouais, Mufasa.
Exact. C'est ça. Bon, puis oui, là, pour les gens qui se posent la question, on est allé se laver après. Là. des écolos qui ont bloqué l'aéroport. L'aéroport? Quel aéroport qui a été bloqué, mon ami?
C'est Montréal-Trudeau, hein, carrément Montréal-Trudeau. Puis tu sais, je t'amène sur ce sujet-là.
C'est des anti-pétrole, c'est vrai.
Exactement. Mais je t'amène pas sur ce sujet-là pour nécessairement parler de leur manifestation comme telle, des raisons pour lesquelles ils manifestent, ou encore de la liberté ou du droit de manifester. J'ai été de ceux qui ont monté à Ottawa dans le temps avec Jeff, puis Denis, puis toute la gang. Puis écoute, j'ai été moi aussi en manifestation avec la gang de Guy Morin. Pis, le droit de manifester est excessivement important. Ça fait partie de nos libertés d'expression. Mais à un moment donné, il faut être conséquent. Puis cet événement-là est l'événement idéal pour démontrer à quel point les groupes qui ont de la grogne contre tous ces environnementalistes-là, là, qui ont de la grogne contre l'industrialisation, contre les chasseurs, etc., sont souvent les plus pauvres en termes de conséquences. Puis je m'explique. On voit la première photo de l'article, là, le groupe Last Generation qui s'est présenté à l'aéroport au milieu de l'avant-midi pour réclamer la fin du pétrole, du gaz et du charbon. Et pour se faire voir et comprendre, ils ont des dossards en plastique sur le dos, des pancartes en plastique dans les mains, des bouteilles de plastique tout autour d'eux autres pour mettre de la peinture un peu partout, puis ils se collent les mains au sol avec de la colle qui est un byproduct du pétrole littéralement. Et ça a pris à peu près 25 chars de police à brûler du gaz avec du solvant pour les décoller de là. Et si on va voir sur la page Facebook de ce groupe-là en particulier, puis malheureusement, ça tombe sur eux autres parce que c'est eux autres qui ont fait quelque chose, et on regarde l'ensemble des manifestations et des moyens qu'ils utilisent, ces gens-là, et rarement sur des pages de groupes écologistes, j'en vois à ce point-là, ces gens-là consomment pour manifester l'arrêt de l'utilisation des matières pétrolifères, énormément de plastique dans leur moyen de se faire entendre, de se faire voir, de manifester leur mécontentement envers le gaz, le charbon, et etc., puis cesser le pour 2030. Eux, ce qu'ils réclament, c'est pour 2030, plus de charbon, plus de gaz, plus de produits pétrolifères, et ils sont... Honnêtement, là, ils utilisent énormément de plastique pour se faire. Fait que, tu sais, c'est une inconséquence-là qui ressemble beaucoup au gars qui chiale sur ma photo de chasse parce qu'il y a du sang à sa bobite qui est à terre, puis qui choisit le steak le plus saignant qui est disponible, à l'hôpital, à l'épicerie. C'est un peu une autre démonstration d'inconséquence. Quand vous allez manifester pour quelque chose, s'il vous plaît, n'utilisez pas pour vous faire entendre des produits qui sont faits à base du produit que vous voulez anéantir. Ça fait un peu stupide, là.
Ouais. Ah, ils sont inconséquents, là. Ils sont tout simplement inconséquents. Mais ce qui me fait halluciner des fois, c'est que parfois, ils peuvent être même dangereux dans les gestes que ces gens-là posent.
Ben, littéralement, tu sais, dernièrement, ils se sont hissés sur les panneaux d'autoroute, là. Je me souviens pas trop où, là, avec, justement, de l'équipement Petzl sur le dos, des beaux cases de plastique, des belles sangles en plastique, puis à Waygo, là. Je l'ai pas loin ici, Trans-Canada Highway. Ils se sont hissés, là, carrément sur la pancarte de la 417 Est, avec leur pancarte en plastique pour arrêter le pétrole, là. Tu sais, c'est des gestes qui sont illégaux, qui sont répressifs. C'est pas la bonne façon de faire. Si moi, je me pointe en face du Parlement d'Ottawa pour réquisitionner l'arrêt de l'utilisation des produits électroniques, puis que pour ce faire, je me fais entendre au travers d'un porte-voix électronique, je vais avoir l'air d'un épais, puis je vais prendre le blanc. Et c'est un petit peu ça que je vois au travers de ça, puis ça reflète ce qui se passe de manière générale dans la société. Puis, je suis obligé de dire que j'ai l'impression que c'est un manque d'éducation, parce que tu as une pancarte en plastique dans les mains avec un dossard en plastique sur le dos, puis tu dis « abat les produits du pétrole ». Il y a un bout qui te manque.
Oui, puis ils sont tous arrivés en voiture ou en autobus.
Ben, et voilà, ouais. Fait que c'était une petite montée de lait, je te dirais, que j'ai faite en onde quand j'ai eu cette nouvelle-là au départ. Ben, je dis, ça n'a pas de bon sens, il faut aider ces gens-là. Je veux dire, on prône la prévention en termes de détresse psychologique. Je pense qu'il y a d'abord et avant tout de l'information à faire pour ne pas laisser les gens faire fausse route comme ça. C'est probablement un manque d'éducation ou un manque d'information, parce que de militer contre les produits électroniques avec un porte-voix électronique, j'aurais de l'air aussi épais que ça.
Hey, écoute, je suis sur des sites, moi, de randonnée en forêt, là, sur des sites Facebook de randonnée en forêt. Je trippe sur les randonnées en forêt. Puis il y a des gens qui posent des types de caméras de chasse pour observer ce qui se passe dans la forêt, dans certains secteurs. C'est pas nécessairement des chasseurs, ça peut être juste des gens qui se promènent et qui veulent savoir qu'est-ce qui passe par là. Puis j'ai tombé sur une image d'un loup qui passe régulièrement à la même place à chaque jour. Il fait sa run. Moi, j'ai toujours pensé que les loups se promenaient en meute. Pourquoi il y a autant de loups solitaires, là?
Ben, il y a énormément de loups solitaires, comme il y a des n'importe quels animaux qui font partie d'une harde. À un moment donné, la hiérarchie de la harde fait qu'ils vont expulser un individu parce qu'il est plus fertile, parce qu'il est plus, il est plus capable de protéger la meute. Fait que soit il va prendre le bout de la ligne, parce que généralement, les dominants sont en arrière de la ligne. Quand une meute de loups se promène, là, les derniers en arrière, c'est les plus forts, là. Les premiers en avant, c'est les plus malades, c'est les plus... disposable, on va dire ça comme ça. Ou ben non, ils vont le relayer dans le bout de la queue, ou ben non, ils vont carrément le mettre à la porte. S'ils décident de confronter les jeunes mâles qui veulent prendre la dominance de la meute, il va se faire sacrer à la porte de la meute. On en voit quand même assez régulièrement. Je dirais que pas plus loin qu'en haut de la tuque, on avait une caméra sur laquelle, sur le site nourricier pour les ours, il y avait régulièrement un loup blanc. Il était pas très, très blanc, là, il était tout beurré, là, mais un loup blanc qui venait régulièrement. Là. Ça arrive très, très, très souvent. Tu parlais de trail dans le bois, je pensais que tu me reviendrais avec tes ours. Toi. T'as-tu la nouvelle du gars qui a sacré une claque sur le nez d'un ours?
Il y a un gars qui a claqué. Ouais. C'est une histoire de Tiens ma bière ou.
Non. Écoute bien, c'est une vieille histoire, mais elle vient de refaire surface.
Regarde-moi bien aller!
on est en Colombie-Britannique, dans un parc national. Il y a un cycliste qui se promène sur une route forestière, littéralement. Puis à un moment donné, surgit du clos une mère grizzly avec ses petits. Là, tu dis, là, on a un problème, au départ. La mère grizzly décide d'attaquer le monsieur et il te stunte l'individu solide au sol. Il le knock down. Le gars reprend ses esprits, puis il décide de prendre son vélo pour se protéger. Fait que la femelle grizzly continue à piocher, mais elle tape dans le vélo, puis le monsieur, la pression monte un peu, puis les témoins de la scène rapportent que le gars s'est pris un méchant swing, puis il a sacré un coup de poing sur le nez du grizzly qui aurait grogné, reviré de bord, puis reparti dans la forêt. Le gars a knocké un grizzly. Il faut avoir qu'est-ce qu'on appelle des cojones, là.
Oui, mais en même temps, quand t'as pas le choix, t'as pas le choix, là. Mais est-ce que tout ça, ça a été filmé?
Non, mais il y a des agents de protection de la faune qui rapportent l'événement. C'est un événement qui a été répertorié. Il y a des témoins de cet événement-là. Moi, ce gars-là, je lui donnais, je sais pas si c'est des prix Pulitzer ou quoi, là, pour avoir eu les couilles du siècle, là, mais le gars a donné un coup de poing sur le nez à un grizzly.
Ouais. Quand j'avais été plongé avec des plongeurs au Mexique, là, on m'avait dit, si vous croisez, il n'y avait pas de requins dans ce secteur-là, mais si vous croisez des requins, puis je pense pas que c'est des spécialistes des requins, bien honnêtement, il n'y avait pas de biologiste là-dedans, marin. Là. Si vous croisez un requin ou si vous faites mordre par un requin, mettez les doigts sur les yeux, puis j'ai eu comme réflexe, hey, si, bon, je suis dans le fond de l'océan. Puis là, faut que je pense à t'as peu. Il est en train de me mordre, faut que je mette les doigts dans les yeux.
Puis en plus, les yeux sont pas alignés devant toi, sont un peu sur le côté.
C'est sûr, je suis foutu, là. Mais est-ce que ça a pas été filmé, ça? Ça peut-tu être une légende?
Non, c'est vraiment. Il y a plusieurs témoins de cette scène-là. C'est, je t'ai dit, ce gars-là, de mes poches, je lui ferais graver une plaque puis j'y donnerais pour avoir vu. Écoute, tu fais ce que tu peux pour te défendre. Le gars, au lieu de paniquer, il se protège avec son bicycle puis il donne un coup de poing sur le nez du grizzly. Je fais comme, ben écoute, il est plus courageux que moi, là. Il est vraiment plus courageux que moi, là. Parce que, tu sais, il vient de rouvrir la chasse aux grizzlies en Alberta présentement parce que la population est passée genre de 800 grizzlies à 1200 que grizzlies. Les écologistes sont là-dedans puis ils se battent, là. Mais c'est parce que quand ça augmente de même, les attaques de grizzlies augmentent beaucoup, puis souvent, ça se passe sur le bord des pistes cyclables. Fait que tu vois une augmentation du poids de la population quand la population de grizzlies augmente, parce qu'ils peuvent faire du bicycle, ils se font attaquer. Ça devient un méchant problème.
Mais j'ai l'impression que c'est parce qu'ils... Mais en fait, c'est difficile de leur demander d'arrêter de bouger, là. C'est des cyclistes, donc nécessairement, sont en mouvement. J'ai l'impression que c'est ça qui excite le grizzly, le fait que ce soit une cible en mouvement.
Bien, une des choses, la deuxième des choses qu'il faut comprendre, c'est qu'un grizzly a un territoire beaucoup plus grand qu'un ours noir. Puis deux grizzlies côtoieront pas, à moins qu'ils soient en pleine période d'accouplement, le même territoire. Fait que quand tu passes de 800 à 1200 grizzlies, bien, avec des territoires dans les alentours de 5 km², là, sur ce certain grand grizzly dominant, bien, ce qui se passe, c'est que souvent, par exemple, en Alberta, là, il y a une autoroute qui est vraiment ciblée, là, passé laquelle tu n'as pas le droit de mettre de la nourriture au sol, par exemple, pour attirer le chevreuil, parce que ça attire les grizzlies. Bien là, les grizzlies rendus à 1200 quels qui ont depuis longtemps dépassé l'autoroute parce qu'il n'y a plus de place, il n'y a plus de territoire. Il n'y a comme plus de terrain de libre dans le quartier, fait qu'ils déménagent le quartier. Fait que là, ils sont rendus tout près des quartiers résidentiels, ils sont rendus dans le cours du monde. Il y en a en sapristi. Fait qu'évidemment, quand tu fais du vélo sur le côté d'un terrain boisé puis que les grizzlies ont traversé l'autoroute, sont rendus de ton bord, bien, la chance de faire face à face avec un grizzly est beaucoup plus grande. Là, on rapporte beaucoup d'observations de grizzlies puis certains grizzlies qui commencent à s'impatienter parce qu'il y a des petits pieds plats qui passent proche de leur territoire à eux autres. Puis évidemment, un grizzly, bien, c'est un animal. C'est des instincts primaires. On défend notre territoire. Donc, c'est toute une tollée présentement. Les environnementalistes sont là-dedans. Ils crient après le gouvernement en disant, ben non, c'est le même gouvernement qui a dit il y a 10 ans que les grizzlies n'en avaient pas assez. Oui, mais là, le même gouvernement fait des inventaires aériens puis dit, ben là, il y en a trop de grizzlies. Il faut réouvrir la chasse, mais on ouvre la chasse strictement qu'avec une permission accordée dans le cas où est-ce qu'un grizzly côtoierait un territoire qui est problématique pour l'homme. Autrement, on ne l'autorise pas. Fait que c'est quand même relativement contrôlé, mais les grizzlies, non, dans le coin de l'Alberta puis du BC, ça brasse pas mal, là.
Tu nous déçois jamais, Martin, chaque fois qu'on te parle, mais des fois, tu nous déçois. Tu étais supposé venir nous voir en studio avec Kate.
Oui, je vais le faire. C'est ça, je vais le faire. On va sortir de notre boîte de Hobbit, là, puis on va descendre dans la grande ville.
Martin, peux-tu faire quelque chose pour moi?
Hey. Oui, je vais lui dire salut.
Peux-tu dire ça à Kate pour moi?
Je vais faire ça. Il n'y a pas de trouble.
Puis donne-nous deux becs.
Tu pourrais aller pêcher avec Kate à un moment donné,
ouais,
Yann?
Ou... J'aurais besoin d'un instructeur de pêche, là.
On va vous organiser ça. On a essayé de vous organiser ça dernièrement, mais tu te défiles, mon tabarou.
Ouais, c'est ça.
Ouais,
c'est
parce que toi, t'es pas invité, là. Je veux juste aller pêcher avec Kate.
C'était ça.
Je vais te laisser demander en personne. Moi, j'aime bien l'humour. J'aime bien regarder des shows comme ça. Je me fais du popcorn dans ce temps-là, puis je le regarde répondre. C'est très drôle, généralement.
Non, je suis pas game. Salut!
Salut, Martin!
Hey, salut, gang!
Martin Bourget, l'excellent président du groupe Aventure Chasse-Pêche, chroniqueur chasse-pêche qu'on aime beaucoup, à qui on a le plaisir de jaser chaque semaine. 17h40, on fait une courte pause, on vient.
Le retour de Boulevard.